Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux. Monseigneur Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Alors Monseigneur, je voudrais revenir avec vous en ce début d'émission sur ce terrible incendie qui a ravagé la Flèche et les toitures de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez très rapidement réagi suite à cet incendie, mais qu'avez-vous ressenti au moment même où vous avez vu ces images ?
Je suis, comme tous les téléspectateurs, hein, profondément touché, surtout quand la Flèche, je dirais, s'est effondrée, qu'elle a percé la toiture. Ça a été un moment douloureux. Hein. C'est, en même temps, je dirais, c'est très fort en émotion. Je crois que chacun se souviendra d'où il était, un peu comme quand on a vu les tours à New York, hein, en septembre 2001. Et donc, c'est un événement qui ne peut que toucher le téléspectateur. Hein. Mm-hmm. Alors, à la fois, c'est un édifice de mémoire et en même temps, c'est un lieu symbolique. C'est quand même là où se rassemblent les catholiques. C'est aussi un lieu de visite. C'est aussi un lieu de mémoire. Voilà ce que j'ai d'abord ressenti.
Une cathédrale, c'est important pour un évêque, et puis c'est aussi l'église mère du diocèse.
Alors, effectivement, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, ils ignorent un peu notre histoire. Hein. La cathédrale, c'est d'abord un rappel de ce qu'est notre histoire.
Oui.
Si je prends l'exemple de la cathédrale de Bayeux,
tout à fait.
Elle a plus souffert à la limite des guerres de religion que de la Révolution, puisque la plupart des statues de la Vierge, des saints avaient été, je dirais, les têtes avaient été coupées, etc. En même temps, elle fait mémoire des périodes de l'histoire majestueuses, parce que quand elle a été construite, 12e, 13e siècle, c'est une période d'essor économique, hein, dans notre pays. C'est une période aussi, on dirait, de réconciliation entre la foi et la raison. L'harmonie du gothique montre bien qu'il y a là quelque chose qui nous fascine, hein, quelque chose qui nous élève aussi, la beauté, hein, et puis aussi, sans compter les vitraux. En même temps, une cathédrale, c'est tout un symbole. C'est là où sont enterrés les évêques. Ça fait mémoire, bien sûr, si on prend la cathédrale de Bayeux, des premiers évêques. Il y a au moins leur portrait dans le cœur de la cathédrale, hein, au plafond. Hein. Donc, quelque part, une cathédrale, c'est une histoire commune. C'est aussi la maison du peuple au début du Moyen-Âge. Il faut se rappeler qu'elle était construite au milieu des maisons. C'était là l'assemblée, on peut dire, de la petite ville de Bayeux de l'époque. Hein. Donc, à travers une cathédrale, c'est un peu comme nos grands monuments. Hein. C'est une histoire à la fois civile et une histoire religieuse qu'on ne peut pas séparer. Ce sont aussi nos racines. Hein. Et puis, j'aime beaucoup ce symbole. Elle est tournée vers l'Est, hein, c'est-à-dire le soleil levant, c'est le Christ ressuscité. On y entre du côté de l'ouest, le soleil couchant. Oui. Normalement, elle symbolise que nous n'avons pas à désespérer des forces des ténèbres. L'ouest étant le symbole des forces des ténèbres. Enfin, c'est la nuit, hein. Le soleil se couche à l'ouest. Oui. Il se lève à l'est. Et en même temps, dans une cathédrale gothique, on lève les yeux, je veux dire, à la différence du roman. La lumière, elle vient d'en haut, elle pénètre, on la reçoit. Vous voyez. Il y a toute une symbolique très forte, et pour nous chrétiens, en tout cas, je dirais, c'est la symbolique de notre foi. Donc quand la cathédrale de Notre-Dame de Paris, je dirais, s'effondre, plus ou moins, ça touche aussi notre foi. Enfin, on peut se poser, quand le Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi, hein, dans notre pays, notre Occident de plus en plus matérialiste? Est-ce que c'est un symbole, hein, qui nous appelle à un réveil, ou est-ce que c'est un signe aussi de ne pas désespérer de l'avenir? La cathédrale, comme toutes les cathédrales, elle sera reconstruite, toutes les cathédrales ont connu des incendies presque ou été victimes de grands dommages. Enfin, donc, à travers l'histoire, elles ont toujours été plus ou moins retravaillées et reconstruites.
Alors, un tout petit mot très rapidement à propos de la reconstruction. On a vu effectivement un élan de solidarité nationale et internationale se mettre en place avec beaucoup de générosité. Est-ce que nos églises locales aussi ne devraient-elles pas susciter la même attention ?
Vous avez totalement raison. Enfin, je pense que la générosité, c'est pas le million d'euros. Enfin, on a l'impression qu'on veut se faire applaudir pour la générosité. Vous savez, le partage, c'est pas ce qu'on donne, c'est ce qui reste.
Oui.
Or, ces gens qui ont beaucoup donné, il leur reste combien ?
Merci beaucoup.
Et la personne qui aura donné peut-être 20 euros, elle l'aura pris sur sa petite retraite. Mais là, on va pas en parler. Vous sentez bien que, oui, il y a quelque chose qui nous révolte aussi là-dedans. Hein, on fait pas du tapage avec ce qu'on donne. C'est un peu comme dans l'Évangile. Jésus est scandalisé en voyant que les riches font trébucher ce qu'ils donnent. Et la pauvre veuve qui a donné 2 petites piécettes, personne ne la remarque. C'est quelque chose qui nous choque parce que effectivement la réaction, je dirais, elle est légitime. Les pauvres, et puis on a tellement d'édifices hein, qui souffrent aujourd'hui, nos petites églises dans les communes, quand on voit comment les maires, les conseils municipaux se saignent hein, pour essayer de réparer une toiture ou autre. Enfin, là, on a l'impression qu'on étale. L'argent, c'est quelque chose. Ces réactions, je personnellement, je les partage aussi. Enfin, c'est pas le pour moi. Je ne m'incline pas devant parce qu'on a donné 200 millions. Il faut voir ce qui reste. Et pour moi, c'est pas ça du partage. C'est pas ça la générosité. C'est autre chose. J'admire beaucoup plus la personne qui aura donné 20 euros sur sa petite retraite hein, et voir ce qui lui restera.
CF. L'actu du diocèse, avec Mgr Boulanger, évêque du diocèse de Bailleul-Lisieux, au micro d'Alexandre Barbet.
Alors l'actualité, Mgr, c'est aussi les prochaines élections européennes. Alors, je ne vous demanderai pas quel est votre choix ou si l'Église donne des consignes de vote, mais ce que ça représente pour vous, l'Europe que vous avez vue se construire, vous, au fil des décennies.
Ben, je suis né l'Europe. Juste en 1945, à la fin de la guerre. L'Europe, c'est ma vie. Enfin, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on renie ce qui nous a unis. On a connu des millions de morts pendant 70 ans, 1870, 1914, 1939, enfin quand même. Si il faut connaître à nouveau la guerre, et si chacun reprend, je dirais, ses billes, d'une certaine manière, entre guillemets, non, l'Europe est indispensable, sinon nous n'existons pas dans le monde. Mm-hmm. Et quelque part, moi, ce qui me fait peur, c'est l'inconscience des Européens devant la puissance de la Chine. Quand on va en Afrique, mais demain, nous allons être aux bottes de la Chine. Cette civilisation chinoise va nous imposer, je dirais, sa culture, va nous imposer son mode de vivre. Hein, elle va. Quand on voit que comment ça se passe dans certains pays d'Afrique, je crois que nous sommes inconscients. Or, nous n'avons pas le choix. Hein, la France, bien sûr, c'est mon pays, mais l'avenir, c'est l'Europe. Mon avenir, c'est l'Europe. Et bien sûr qu'on a modifié un certain nombre de fonctionnements. Elle n'est pas assez représentative des peuples.
Oui, parce que effectivement, souvent nos concitoyens expriment le sentiment d'une distance entre des décisions politiques, des règlements et la vie réelle sur le terrain.
Alors les règlements, il faut dire, hein, la France est extrême dans ses règlements. Elle est extrémiste. On dit c'est l'Europe, mais non. On a une administration tatillonne quand vous voyez pour la sécurité. Enfin, hein, ça devient d'une exagération, les dossiers qu'il faut faire.
On le voit aussi pour les agriculteurs. Notamment.
Mais bien sûr. Alors, je comprends qu'ils en veuillent l'Europe, mais qu'ils en veuillent d'abord à l'administration française, hein, qui est excessive dans sa manière d'appliquer. Alors, on peut moduler. Il y a bien d'autres pays. Si je prends je connais bien la Pologne et un certain nombre de pays de l'Est, même parfois l'Allemagne. Enfin, on est quand même beaucoup plus souple. Or, ce qu'il faut le reprocher, c'est pas d'abord à l'Europe, c'est le tatillonisme de l'administration française, et qui nous coûte je ne sais combien, hein, parce que bien sûr qu'il faut aménager nos collèges, nos établissements scolaires, nos églises, mais sous prétexte que la porte de l'église ne s'ouvre pas dans le bon sens, on va fermer l'église, enfin. Bon, alors... s'il faut tout prévoir, vous savez, tout était sans doute en très grande sécurité à Notre-Dame de Paris. On y investit je ne sais combien de millions. Ça n'a pas empêché, à la limite, l'incendie. Hein. Et donc, quelque part, il faut aussi moduler et modérer. Et sinon, moi, je comprends le sentiment des Français qui deviennent anti-européens. Mais n'accusons pas trop vite ni Bruxelles, ni Strasbourg. Hein, et puis, je dirais, là aussi, nous avons des représentants, nous les ignorons bien souvent, nous ne savons pas qui siège, par exemple, à Bruxelles ou à Strasbourg, et c'est aussi aux Français à s'informer, et nous avons au niveau des églises, l'église catholique, nous tenons beaucoup à l'Europe, puisque nous nous retrouvons aussi à ce niveau.
Le mois de mai, et pour les catholiques, le mois de Marie, Monseigneur. Alors, vous, quelle est votre relation à la Sainte Vierge?
Oh, ben, elle est forte, hein. Je dirais, pour moi, depuis toujours, hein, dans mon enfance, ça a été la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, et puis Sainte Thérèse. Donc, ce qui a construit ma famille, ma vie, enfin, ma foi, je dirais, quand je vois la foi des petites gens, entre guillemets, vous voyez, des petits de la terre, enfin, se tourner, la confiance qu'ils ont vis-à-vis de la Vierge Marie. Quand on voit ce film qui vient de sortir sur Lourdes, où on voit les malades, etc. Quelque part, Marie, c'est notre maman du ciel, comme dit Thérèse, et c'est à elle que les gens se tournent, ils ont du mal à comprendre l'Eucharistie, tous nos dogmes, etc. Mais spontanément, ils vont se tourner vers la Vierge Marie. Donc, dans ma vie, dans ma foi, tous les jours, elle a une place. Et une mère n'a qu'un projet, c'est de nous faire découvrir son Fils. Marie nous conduit toujours à Jésus, voyez-vous. Donc, elle veut pas prendre la place de Jésus. Mais au contraire, elle est heureuse quand elle nous conduit vers son Fils. Voilà.
Alors son fils, en plus, qu'elle a vu naître et mourir.
Et mourir, et elle est là au pied de la croix, et en même temps, sa foi. C'est Paul VI, le pape Paul VI, qui nous l'a proposé comme mère de la foi, mère de l'Église. Marie, Jésus, lui, on ne dit pas dans l'Évangile que Jésus ressuscité lui soit apparu. Elle ne s'est pas précipitée au tombeau vide. Elle a cru. Elle a cru contre toute espérance. C'est le modèle de la foi. Et si on veut tenir dans la foi, il faut prier la Vierge Marie. C'est elle qui nous soutient.
Et c'est là toute l'actualité, justement, de la figure de Marie, c'est de tenir dans l'espérance.
Oui, tout à fait, vous avez raison, tout à fait.
Marie est apparue plusieurs fois en France et dans le monde. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat, mais est-ce qu'elle éclipse Saint-Joseph ?
Non, parce que Jésus est le fruit de leur amour. Je crois que Joseph et Marie, même si Jésus n'est pas le fruit de Joseph, il n'est que le père adoptif, selon toute la tradition catholique, depuis les pères de l'Église, je dirais que Joseph s'est tenu pour protéger Jésus, comme un père, et en même temps, il a soutenu Marie. On ne sait pas, il n'était plus là à la mort de Jésus. Durant la vie publique de Jésus, on n'entend plus parler de Joseph. En même temps, il est juste, c'est-à-dire qu'il est, dans l'Évangile, il est un homme juste, il est accordé au projet de Dieu. Et donc, c'est la foi. Il a vécu de foi comme la Vierge Marie. Il ne s'est pas imposé non plus. Il a été très discret. Mais Marie a aussi été très discrète pendant les 30 ans de la vie, comme on dit, cachée à Nazareth. Marie, mis à part une fois où Jésus va au temple à l'âge de 12 ans, nous ne savons pas ce qu'elle a fait. Nous ne savons pas comment elle a réagi, etc.
Oui, mais et à Cana aussi.
Elle a veillé sur Jésus avec Joseph. Et je trouve que c'est important. Vous dites qu'elle est apparue, oui, à la fois dans des moments un peu dramatiques qu'a connu la France.
Oui.
Comme d'ailleurs elle est apparue au Rwanda avant le génocide. Il ne faut pas oublier qu'il y a un lieu d'apparition très important au Rwanda. Et que la Vierge, elle veille sur l'humanité. Elle pleure d'une certaine manière de voir ce qui s'est passé à un certain moment dans notre pays, comme elle pleure de voir ce qui s'est passé au Rwanda, qu'elle a plus ou moins annoncé, et c'est toujours un appel au repentir, à la conversion, à la paix du cœur et à la réconciliation.
Témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin.
RCF. Monseigneur, durant ce mois de mai, vous allez confirmer des adolescents, mais aussi des adultes. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ou à ces adultes que vous rencontrez ?
Hier, j'étais avec des adolescents.
Oui.
Ils me disent, mais enfin, on a déjà reçu l'Esprit-Saint
au baptême.
C'est juste.
Vrai.
Mais ils ne se trompent pas, les jeunes, ils ont raison. Alors, je prends souvent cette comparaison. Vous savez,
je suis
un jardinier, j'aime les plantes, et je pense souvent à mes rosiers. Ils ne sont pas encore tout à fait en bourgeon. Il y en a l'un ou l'autre. Mais je dirais, le baptême, c'est le bourgeon. Le rosier est en bourgeon. On a reçu, effectivement, l'Esprit-Saint. Mais le bourgeon qui ne va pas éclore en rose, qui va pas donner sa bonne odeur, qui va pas donner sa belle couleur, c'est quand même dommage. Une rose qui reste en bourgeon, c'est pas tout à fait une rose. Et c'est ça que j'essaie de leur expliquer. Ça veut dire que ça va être on a besoin de s'épanouir, de prendre confiance, de grandir dans la foi, et aussi de témoigner de cette joie d'être chrétien. Or, l'Esprit Saint, on voit bien qu'il a bouleversé la vie des disciples. Ils ont pris confiance en eux-mêmes, dans les autres. Ils ont pris confiance en Jésus et ils ont témoigné au risque de leur vie, parfois dans le martyr, de Jésus vivant. Et c'est ça, l'Esprit Saint. Donc, vous voyez bien que c'est un moment très fort. Et Thérèse, la petite Thérèse, dit que pour elle, le moment le plus fort dans sa vie, ça a été le jour de sa confirmation.
Alors justement, au moment de la confirmation, avec le Saint-Crème, vous dites aux jeunes ou à l'adulte que vous confirmez, « Sois marqué de l'Esprit Saint, don de Dieu ». Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
D'abord une grande joie, parce que quand on voit leur visage, surtout de ces jeunes adolescents, c'est merveilleux, ils sourient. Oui. Et ils sourient, on voit, et parfois je leur dis, mais garde ton beau sourire, surtout. Sois heureux d'être chrétien, de devenir chrétien ou chrétienne. Et puis surtout, garde confiance, parce que ils le disent dans leurs lettres, je réponds, j'en suis à peu près actuellement à 150 réponses, je réponds à chaque lettre, je prends du temps pour le lire. La preuve, dimanche après-midi, je devais aller voir le match de foot pour soutenir Caen. Et puis, vous voyez, j'avais les lettres des confirmants, c'était urgent. Donc, j'ai sacrifié ce match pour répondre aux confirmants. Mais en même temps, pour eux, c'est essentiel de recevoir une lettre personnelle, de répondre à leurs questions, de les encourager, parce que bon nombre, dans leurs lettres, partagent leur vie. Ils ont 13, 14 ans, 15 ans. L'un d'entre eux me dit, mais comment je vais faire ma confirmation? Mes parents se séparent à ce moment-là. Je suis en larmes. Peut-être que mon papa ne sera pas là ce jour-là. Donc il faut quand même aussi être à l'écoute de ces jeunes qui souffrent, les encourager. Un autre me dit, ben voilà, mon papy, il est décédé il y a quelques mois, j'aurais tant voulu qu'il soit à ma confirmation. Vous sentez combien ces jeunes attendent de la part de l'évêque, enfin, ou des adultes
ou
qui
des
les
adultes
accompagnent,
aussi, effectivement.
Une présence, un réconfort, et aussi la prière.
Oui, alors effectivement, d'être accompagné pendant la préparation à la confirmation, et après aussi.
Bien sûr, parce que je les invite souvent à venir à Lourdes, à Rome, à Assise, et il y a des temps forts pour la passe aux jeunes. Donc c'est à travers tous ces temps forts qu'ils progressent aussi, et qu'ils en rencontrent d'autres. Parce que, encore hier soir, un jeune me dit, ils sont normalement 28 dans sa classe. Et dans un collège catholique, il me dit, nous sommes sans doute deux chrétiens.
Oui.
Bon, voilà. Oui. Est-ce qu'il va le dire aux autres? Il va pas le mettre sur Instagram.
Non.
Il va pas le diffuser. Il va le garder un peu pour lui. Il dira peut-être à ses meilleurs copains, Donc c'est dur pour eux. Ils vivent vraiment la foi souvent très seuls. Bon, heureusement, beaucoup sont accompagnés par leur famille, encouragés. Mais il y en a aussi qui le vivent de manière très solitaire.
À la fin de ce mois de mai, Monseigneur, le jeudi 30 mai exactement, nous fêterons l'Ascension. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'Ascension?
Pas une équipe de deuxième division qui va monter en première division. Vous savez, c'est un autre type d'Ascension. C'est pas une Ascension professionnelle. Au fond, c'est un autre mode de présent. Jésus qui est présent, non plus physiquement. On pourrait dire, il passe de la proximité physique à une présence spirituelle. Ça ne veut pas dire que c'est une présence virtuelle. Spirituelle, il y a une force qu'on reçoit. Moi, ce qui m'étonne, c'est en lisant aussi des lettres de jeunes, qu'ils ont fait l'expérience, parfois quand ils étaient enfants, mais vraiment de la présence de Jésus. Ils l'ont reçu presque, ils l'ont ressenti presque physiquement. C'est pas tous les jeunes, bien sûr. Mais alors des jeunes me disent, mais est-ce que c'est vrai? Ou bien j'ai rêvé? Ou j'ai pensé? Non. Jésus est présent. Certaines personnes le ressentent très fortement. D'autres beaucoup moins. On croit sans avoir vu. Mais voilà. Donc Jésus désormais est auprès de Dieu. Et sa présence, elle est davantage spirituelle. Et en même temps, pourquoi restez-vous là, regardez le ciel ? Vous voyez ? On peut oui, idéaliser oui. Comme ces jeunes qui ont fait l'expérience dans leur enfance de Jésus, qui attendent un retour et que... quand est-ce qu'on va refaire la même expérience ? Elle reviendra peut-être plus jamais.
Elle reviendra peut-être plus. Alors effectivement, comment vivre cette fête ? Quel sens y donner que l'on ait fait l'expérience ou pas de la présence de Jésus à nos côtés ?
Alors Jésus dit que c'est par les autres. Et c'est ça qui est étonnant. Oui. Il va confirmer sa présence par ceux qui nous sont à côté de nous, enfin des amis, hein. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est cette expérience au sein d'une fraternité, au sein d'une communauté. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons du mal à croire, parce que, surtout nous Européens, Occidentaux, nous sommes très rationnels et individualistes. Mmh. C'est moi et mon Jésus, et oui. Alors que oui, Jésus dit non, tu vas me rencontrer parfois dans le pauvre qui est là, dans le malade que tu vas rendre visite, dans le migrant que tu vas accueillir. Il y aura un clin d'œil. Évidemment, c'est pas avec un cachet, on va authentifier. Non, il y a toujours ma liberté. Je suis libre de le reconnaître ou pas. Mais cette fête de l'Ascension est très importante parce que ça me révèle la présence de Jésus, mort et ressuscité, mais au milieu de nous, dans une communauté, dans une fraternité. Et donc les disciples, il les invite à le retrouver, je dirais, au sein de leur communauté.
Merci, Monseigneur, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir. Thank you.